Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Anne Boussico-Ménra, qui est conseillère presbytérale, qui est prédicatrice laïque et qui va aujourd'hui nous parler de Jésus, la vraie vigne.
Oui, j'ai intitulé moi plutôt cette méditation « La vigne, les sarments et les fruits ». Le texte du jour qui est dans l'évangile de Jean apparaît à première lecture un tantinet obscur, car il est assez répétitif. Il faut un peu creuser. Je vous livre donc les quelques questions qu'il m'a amené à me poser et les réflexions qu'elles m'ont inspirées, et je vous les livre pour ce qu'elles valent.
Donc, nous allons maintenant écouter dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il se dessèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans son amour.
D'abord, une remarque. Si on lit ce qui précède, notre texte d'aujourd'hui a l'air d'arriver comme des cheveux sur la soupe. Jésus a promis à ses disciples l'envoi de l'Esprit qui restera avec eux quand lui ne sera plus là. Et il termine ainsi. Levez-vous, partons d'ici. Et puis commence un tout autre discours, apparemment intercalé avant le récit de la Passion qui devait suivre et qui n'arrivera en fait que 3 chapitres plus loin. L'évangile de Jean nous a déjà offert une belle série de comparaisons donnant un portrait de Jésus tracé par lui-même. Je suis l'agneau, je suis le pain de vie, je suis l'eau vive et maintenant la vigne. La vigne dont le fruit est signe de richesse et de joie, dont le vin réjouit le cœur de l'homme. L'image n'est pas nouvelle. Elle a déjà été employée dans l'Ancien Testament pour représenter le peuple d'Israël, peuple choisi et élu de Dieu, soigné et choyé par lui. Je cite dans Jérémie au chapitre 2, verset 21, « Moi je t'avais planté, vignoble rouge-vermeil, tout entier en cépage franc. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue aux fruits infects ?» Et dans Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plant de choix. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle produit de mauvais? La vigne du Seigneur le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. Et Jésus déclare au verset 1, « Je suis la vraie vigne ». Lui seul, lui qui est issu de ce peuple-là, est maintenant la vraie vigne, source de richesse et de joie pour les hommes. C'est lui qui concentre ce qui fut pendant des siècles la mission du peuple d'Israël, être signe et témoin de la présence de Dieu dans le monde, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Qui dit « vraie vigne » peut sous-entendre qu'il y en a de fausses. Que peut-on comprendre là? Que ce n'était plus à Israël de jouer ce rôle désormais? Et pour nous, aujourd'hui, qu'il convient de nous méfier de ce sur quoi nous sommes branchés au sens propre. Ne nous trompons pas de cèpe. C'est donc Jésus qui est la vraie vigne, mais pas tout seul. Que serait un pied de vigne sans sarment? Ce sont eux qui vont porter du fruit. Eux, ou plutôt nous, sarments renouvelés de génération en génération, comme chaque année de nouveaux sarments se succèdent sur un même cèpe. Nous formant un nouveau peuple qui tire son unité de son enracinement en celui qui dit ici être la vigne. Mais une vigne, cela s'entretient, cela se soigne. On ne laisse pas les sarments pousser comme bon leur semble. On les attache, on les taille. Et le vigneron reste le même que celui de l'Ancien Testament. Je cite, « Et mon Père est le vigneron ». Au verset 2, nous lisons, « Tout sarment qui en moi, ça veut dire que le Christ est bien le cèpe auquel sont fixés les sarments, tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève ou le coupe, suivant les traductions. » On retrouve les termes de l'Ancien Testament lorsque le vigneron constatait sa mauvaise récolte. Les autres seront émondés ou nettoyés pour porter encore plus de fruits. C'est d'ailleurs la même racine pour les deux verbes en hébreu, la notion de coupure, de taille, avec une préposition pour le deuxième, ce qui l'amène à vouloir dire purifier. Cela fait penser aux cathares qui s'appelaient les purs parce qu'ils pensaient être au plus proche de l'Évangile. La question qui me vient alors est, qu'est-ce que porter du fruit, ou plutôt du bon fruit? J'y reviendrai. Je continue l'étude du texte. Au verset 3, Jésus s'adresse à ses disciples. Vous avez été émondés par la parole. Ce qui précède était un peu général, montrant le rôle du vigneron, seul juge de ce qui doit être supprimé ou taillé. Et là, les choses sont plus directes. Vous avez été émondés par la parole. Et nous? Actuellement, qu'est-ce qui nous émonde? Et même tout simplement, qu'est-ce qui nous rattache à la vraie vigne puisque Jésus n'est plus là? Évidemment encore la parole qui doit nous travailler et qui nous transmet la nouveauté de son enseignement. Au verset 4, « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Nous retrouverons au verset suivant cette double indication qui répète la même chose de manière symétrique, ce qui est une habitude fréquente chez Jean, comme d'ailleurs dans les textes grecs en général. Et ce thème va être développé dans toute la suite du texte. « Je suis la vraie vigne et vous êtes les sarments. » Jésus reprend avec insistance ce qu'il a déjà dit, et les choses deviennent alors tout à fait claires. Comment une branche séparée de l'arbre et n'en recevant plus la sève pourrait-elle porter du fruit, et même tout simplement rester en vie? Le fruit vient de l'arbre, le fruit, le raisin vient du sarment, le sarment tout seul, lui, en dehors du cep, ne peut rien. Je reprends mon interrogation de tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous permet de nous rattacher au cep et de demeurer en lui? On compare parfois le vin au sang de la vigne. On peut donc penser aussi qu'en plus de l'écoute attentive et de l'étude de la parole, à travers la Bible, le repas commun de la scène peut être un moyen d'y arriver. Et cela nous ramène plus ou moins aux fruits. Pas de fruits sans lien. Sans lien avec qui? Avec le Christ, certes, mais l'homme Jésus ne représente-t-il pas l'homme tout court, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire les autres, nos frères? Demeurer en lui, c'est alors demeurer en relation avec les autres. Chacun des sarments rattachés à un même pied de vigne et relié à tous les autres reçoit la même sève et communique avec les autres. Et si cette communication s'interrompt, on est jeté dehors comme le sarment et on se dessèche. Même au sens strictement courant d'ailleurs, se couper des relations sociales et humaines en général, n'est-ce pas s'exposer au dessèchement, au flétrissement, à l'impossibilité finalement de faire quoi que ce soit? Et le « en dehors de moi » prend alors un sens encore plus large. Si vous n'êtes pas relié aux hommes, vos frères, vous ne pouvez rien faire. Dire que le Christ est le seul chemin possible revient à dire que les autres sont le seul chemin possible pour demeurer en lui. Et on trouve donc un troisième moyen de nous rattacher au cep. Cela peut passer aussi par la vie de la communauté. On devrait même dire, cela doit passer par la vie de la communauté. Car c'est le lieu où les chrétiens peuvent expérimenter la relation avec le prochain en étant, on y revient tout de même, nourri par la parole. C'est ainsi qu'on peut s'assurer une base de départ solide. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, au verset 7, encore deux façons de dire la même chose. Quels fruits pourrons-nous alors porter? Personne ne peut comprendre Dieu ni sa parole s'il n'a été éclairé par l'Esprit, dit Luther, qui continue « L'action du Saint-Esprit, il faut l'expérimenter. Si on n'est pas passé par elle, les mots restent des mots. On ne peut connaître Dieu que par l'action qu'il fait en nous. » Quelle action? Le seul moyen que nous ayons de témoigner de l'amour que nous portons au Père, en retour de celui qu'il nous donne gratuitement, le seul moyen de le rendre visible aux autres, c'est de collaborer à son œuvre d'amour en aimant notre prochain. Notre prochain qui est désormais le seul moyen que nous ayons de trouver Dieu, son seul visage, comme Jésus a été la seule image de Dieu, son seul visage. Cela s'éclaire d'ailleurs dans la suite du texte que vous connaissez sûrement. Demeurer en lui ou demeurer en son amour, c'est observer son commandement d'amour les uns pour les autres. Mais cette suite, si vous voulez l'entendre, il vous faudra attendre la semaine prochaine, vous vous en doutez. L'absence de fruits, c'est l'absence d'ouverture aux autres, l'absence de gaieté, l'absence de projet. La vigne n'est pas un arbuste décoratif. À quoi sert une vigne qui n'a pas de fruits, qui n'apporte pas aux hommes de quoi se réjouir? À quoi sert une église qui ne fait pas naître en elle et autour d'elle plus d'amour et d'attention aux autres, plus de justice, plus d'espérance? Elle est dans ce cas appelée à disparaître par l'action du vigneron exigeant. Elle, ou tout au moins certaines pratiques ou théologies devenues caduques, desséchées, ou faut-il dire desséchantes, mortes. Et du même coup disparaîtront certains de ses membres. Le travail le plus habituel du vigneron n'est tout de même pas aussi définitif, et son instrument principal reste la parole, encore et toujours, transmise à travers ce que nous appelons les Écritures, telle cette sorte de parabole que nous méditons aujourd'hui. Cette parole qui ne cesse de nous prodiguer des soins attentifs, vigoureux, voire parfois un peu rudes, difficiles souvent à comprendre, mais qui devrait nous permettre de porter les fruits qu'il attend de nous, ce que ne feraient sans doute pas des banalités inoffensives. Cette parole qui peut circuler partout et faire naître de nouveaux rameaux, espoir de plus de fruits encore. Et au verset 8, d'une certaine manière, on a finalement un retour à l'envoyeur. Si nous portons du fruit en abondance, c'est cela qui glorifiera notre Père. Glorifier, c'est un mot qui vient d'une racine hébraïque qui signifie rendre dense, donner du poids. Je crois que c'est le même mot dans le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». Honorer et glorifier, c'est donner du poids. Et ce mot ne fait donc pas tant référence à une idée de puissance qu'au fait de confesser l'identité de quelqu'un, d'attester de ce qu'il est. Ainsi, dans le même temps, nous pouvons en acquérir la connaissance et en témoigner aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Évidemment, on ne trouve pas ici de recette explicite à suivre pas à pas et méthodiquement, pas de loi rigide qu'il suffirait de suivre, ou de pratiques religieuses ritualisées, mais plutôt une certitude, celle que le moyen de faire quelque chose de positif de sa vie est de rester relié au cep, de ne jamais se couper de la sève nourricière qui fera naître les fruits. J'ai bien dit « qui fera naître ». Cela implique un travail, une croissance, un devenir. Rien d'immédiat de toute façon. Cela me rappelle une petite histoire. Il s'agit d'un jeune homme qui entre en rêve dans un magasin. Derrière le comptoir se tient un ange. Le jeune homme lui demande « Que vendez-vous ? » Et l'ange répond « Tout ce que vous désirez. » Alors le jeune homme commence à énumérer. « Alors j'aimerais bien la fin des guerres dans le monde, la fin des bidonvilles en Amérique latine, l'intégration dans la société de tous les marginaux, du travail pour tous les chômeurs, l'accueil de tous les réfugiés, plus d'amour et de vie communautaire dans l'Église. » L'ange lui coupe la parole. « Excusez-moi, monsieur, vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons que des graines. » De la même manière, la vigne doit d'abord fleurir, puis chaque grain de raisin va grossir à partir des substances fabriquées par les feuilles ailleurs dans la plante et qui lui sont transmises. La seule loi par laquelle le Christ résume tout ce qui a précédé, c'est un ordre simple en apparence, simple dans sa formulation en tout cas, à la fois terriblement imprécis et directement impératif, et plutôt compliqué dans sa mise en œuvre. Le but semble net, le chemin est indiqué, mais les étapes ne sont pas toutes précisées, il faut les découvrir soi-même. On pourrait être tenté de limiter le témoignage de la foi à un certain nombre de gestes, d'attitudes, voire d'œuvres que notre éducation a rendues familiers, venir au culte, écouter la prédication, communier, participer à diverses activités paroissiales plus ou moins festives, cotiser à l'entraide, etc. Et on pourrait penser que cela suffit pour être correctement vivifié. Mais garder les commandements de Dieu n'a rien d'une attitude passive. Les garder, les faire vivre, porter du fruit donc, c'est les vivre. Les moyens que nous avons trouvés progressivement, vie communautaire, vie cultuelle, etc., ne doivent pas devenir des buts ou des alibis. Demeurer en Dieu n'est pas une récompense à nos supposés mérites. Il y a pour cela une condition. Si nos gestes, y compris pour servir notre prochain, deviennent routine et répétition de ce qui s'est déjà fait, l'état de recherche paraît devenir moins nécessaire. Si nous arrivons à un abandon de la vigilance intérieure, nous finissons par agir en croyant le faire au nom d'un commandement d'amour, mais en réalité loin de celui qui est la source de tout amour. La sève ne circule plus vraiment. Ce qui me semble clair, c'est que l'absence d'effet est une preuve de ratage, de fausse route, et que recevoir la sève, excusez-moi, je veux dire la parole, ne suffit pas si les mots restent des mots. Si nous ne sortons pas d'ici pour faire quelque chose, la sève a circulé inutilement. Pour que nos bourgeons s'ouvrent et mûrissent, restons branchés. Comme la végétation dans un désert peut attester la présence d'eau, puissions-nous par notre comportement, excusez-moi, je voulais dire nos fruits, attester la présence et l'amour de Dieu. Amen.
Je vous propose maintenant une prière avec un texte de René Château. Christ n'a pas de main, sinon les nôtres, pour faire son ouvrage. Il n'a pas de pied, mais veut se servir de nos pieds pour mener les hommes sur son chemin. Il n'a pas de lèvres, mais veut se servir de nos lèvres pour parler de lui aux hommes. Jésus nous charge de donner à d'autres ce que nous avons reçu, de communiquer ce que nous avons entendu. Nous sommes ses mains. Avec nos mains, il veut faire son ouvrage dans notre monde. Nous sommes ses pieds. Avec nos pieds, il veut trouver le chemin vers les hommes qu'il cherche. Nous sommes ses yeux. Avec nos yeux, il veut découvrir les hommes qu'il a appelés à la liberté. Nous sommes sa bouche. Par notre bouche, il veut annoncer sa parole de réconciliation à ceux qui se haïssent. Notre Dieu, béni sois-tu de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu d'être venu par lui à notre rencontre. Béni sois-tu d'être pour nous le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de toujours, le Dieu des vrais recommencements, le Dieu de l'amour qui ne périt jamais. Amen. Merci Anne pour ta méditation. Je vous dis au revoir et à bientôt.